Aujourd'hui donc, nous recevons le professeur Alim Louis Benhabid. Le professeur Alim Louis Benhabid est chef de service de neurochirurgie. Il est directeur de l'unité U138 de l'INSERM de neurobiologie préclinique et il est professeur de biophysique à l'université Joseph Fourier et à l'Institut universitaire de France. Après avoir travaillé jusqu'en 1980 sur la modélisation de la pression intracrânienne, il a développé une recherche en neuro-oncologie orientée vers la thérapie génique et dans le domaine des mouvements anormaux, stimulation cérébrale profonde. Il développe actuellement ses recherches dans la perspective de combiner thérapie génique et stimulation à haute fréquence dans le cadre du traitement de la maladie de Parkinson. Il est membre de l'Institut universitaire de France et de l'Académie de médecine. En 1998, il a reçu le Grand Prix de la recherche biomédicale de l'Académie des sciences. En 1999, il a reçu le prix Jean Valade de la Fondation de France. Et en 2000, bientôt, très bientôt, il recevra le prix Klaus Joachim Zülch de la Gertrude Riemschma Fondation, qui sera remis à Cologne en septembre 2000, si je ne m'abuse. Enfin, il a écrit de nombreux articles dans des revues spécialisées. Professeur Benhabid, je vous cède donc la parole pour 50 minutes. Je vous remercie.
Est-ce que vous m'entendez ? Je vous remercie de votre invitation et je remercie tout le monde de votre présence. Je suis très impressionné par la très grande quantité d'auditeurs. Je pense que ce sont les maladies neurodégénératives qui vous ont attiré parce qu'elles nous menacent tous, bien sûr, et qu'elles posent des problèmes intéressants et pour la plupart non résolu, il faut bien le reconnaître. Néanmoins, j'essaierai de vous emmener dans un voyage très, très rapide à travers cette constellation de maladies qui, effectivement, sont en fait très éparpillées. Elles n'ont en commun véritablement que le fait qu'elles sont dues à la dégénérescence d'un ou plusieurs éléments du système nerveux, que ce soit le système nerveux central ou le système nerveux périphérique. On sait que le système nerveux se caractérise par l'immortalité de ses cellules nerveuses et l'immortalité de ces cellules se traduit également par un certain nombre d'inconvénients, c'est-à-dire qu'à la suite de leur grand âge, justement, elles sont exposées plus facilement à des mécanismes qui vont entraîner la dégénérescence de toutes leurs fonctions, alors que des cellules qui se reproduisent beaucoup plus naturellement sont remplacées toujours par des cellules plus jeunes. Ce qui fait l'importance de ces maladies neurodégénératives, c'est la multiplicité de ce type de pathologie. C'est également la fréquence individuelle de chacune de ces pathologies. Certaines sont rares, mais certaines sont très fréquentes, et malheureusement de plus en plus fréquentes, en particulier la maladie d'Alzheimer. Il me joue des tours. Voilà. Donc, en particulier la maladie d'Alzheimer, dont tout le monde sait très bien qu'elle est fréquente et que malheureusement sa fréquence augmente, la sévérité des troubles induits par la dégénérescence du système nerveux est malheureusement souvent l'absence de traitement, mais nous essaierons d'ouvrir quelques portes sur l'espoir. Ces maladies sont importantes aussi parce qu'elles ont un coût au niveau de la santé, c'est à l'ordre du jour, mais en particulier celles-ci, et elles ont un poids social extrêmement important du fait d'une part de la sévérité qui rend rapidement les malades, à cause de leur évolutivité, exclus du milieu professionnel, puis du milieu social, puis souvent du milieu familial. Elles sont invalidantes au niveau individuel et pour beaucoup, elles sont encore incurables. Alors, quels sont les grands tableaux dégénératifs ? J'aurais pu vous présenter des diapositives et des diapositives qui constituent en fait le sommaire de certaines encyclopédies pour dire que effectivement les maladies neurodégénératives sont extrêmement nombreuses. Il est hors de question, bien sûr, que nous en parlions dans le détail. Il y a les maladies neurodégénératives qui touchent le cerveau et puis il y a celles qui touchent la moelle épinière. Les noms pour beaucoup sont connus, Alzheimer, maladie d'Huntington, Parkinson, peut-être moins l'amyotrophie multisystématisée, la sclérose en plaques, les dystonies, tout ça c'est connu, on en parle beaucoup. Au niveau spinal, la sclérose latérale amyotrophique est bien connue malheureusement, ainsi que toute une série d'érédodégénérescences. Qu'est-ce que c'est que cette dégénérescence? Eh bien, elle est en fait assez ubiquitaire. Qu'est-ce que ça peut toucher? Eh bien, ça peut toucher aussi bien les neurones que la glie, cette glie qui constitue ce qui n'est pas les neurones, justement, dont le nom dérive de la glue, la colle. On croyait au début que c'était des cellules qui collaient les neurones entre eux, puis on sait maintenant qu'elles ont des fonctions qui sont quand même plus nobles, mais qui peuvent également être atteintes par cette dégénérescence. Dans quelle partie du cerveau? Eh bien partout, aussi bien au niveau du cortex que de la substance blanche, en fonction des pathologies, au niveau de l'encéphale ou au niveau de la moelle également. Et comment? Eh bien, ça peut être des altérations cellulaires diverses ou ce que l'on appelle, je le redéfinirai un tout petit peu mieux, l'apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire programmée, sauf qu'elle survient à un moment non programmé puisque c'est trop tôt et qu'on va comme ceci voir disparaître notre pool de cellules neuronales dont vous savez par ailleurs qu'elles ne se reproduisent pas, tout au moins c'est le concept actuellement accepté, même s'il est en voie d'être légèrement modifié. Pourquoi cela survient-il? Eh bien, les causes également sont multiples, peuvent être des causes toxiques, des causes d'origine génétique, éventuellement des maladies héréditaires. Ce peut être l'auto-immunité, nous en verrons rapidement un exemple, c'est-à-dire qu'on va se manger soi-même par l'intermédiaire de nos propres anticorps. Ce peuvent être des infections telles que les prions, j'en reparlerai un peu, bien que vous en ayez entendu beaucoup parler, ou très souvent, ce sont des altérations d'origine vasculaire, parce que ce qui va s'abîmer, c'est notre système vasculaire, et de ce fait, notre cerveau va être moins bien nourri. Alors, l'apoptose qui va être au centre, finalement, bon, on meurt tous, et les cellules meurent toutes, on peut dire qu'à un moment ou un autre, c'est une apoptose, mais ce qui est l'apoptose, c'est une mort qui a une certaine séquence. Et cette séquence, elle part du noyau où se trouve la chromatine. Et cette chromatine, sous l'effet d'un certain nombre de signaux, qui peuvent être des médicaments, éventuellement des rayons, l'absence de facteurs de croissance, voire certaines hormones, ou l'absence de certaines hormones, va subir, par l'intermédiaire de toute une série de mécanismes intracellulaires dans lesquels je ne vais pas entrer, qui sont des gènes, qui vont être induits ou non induits. On va voir par exemple que l'association de certains d'entre eux peut avoir des effets soit positifs, c'est-à-dire qu'ils vont être des inducteurs de l'apoptose, ou au contraire des effets négatifs qui vont être des effets préventifs, des moyens préventifs de l'apoptose. Tout ceci va induire une séquence d'altérations qui vont conduire à la mort cellulaire, puis la phagocytose, à travers la fragmentation de la chromatine, le gonflement cellulaire et après la perte de l'enveloppe cellulaire qui conduit à la création de corps apoptotiques qu'on va reconnaître, la destruction de la cellule et cette mort cellulaire programmée. Alors, toutes nos cellules meurent comme ceci. Toutes ont une espèce d'horloge interne qui les conduit à rentrer dans ce processus un jour ou l'autre. Et on peut se demander d'ailleurs si notre mort personnelle n'est pas à une échelle supérieure, également programmée par la mise en jeu d'étapes successives dont souvent, le matin, on a l'impression qu'on vient de les entamer les unes après les autres. Alors, qu'est-ce qui peut donc donner ces mécanismes-là? Je vais prendre rapidement un premier exemple qui est l'auto-immunité, une maladie que tout le monde connaît, la sclérose en plaques, dont l'évolution peut être très variable. C'est souvent une maladie qui commence tôt et qui peut nous mener éventuellement très loin. Il y a des gens qui vivent toute leur vie avec des poussées successives qui sont régressives d'ailleurs et qui laissent à chaque fois peu de traces derrière elles de cette maladie. Au contraire, chez d'autres malades, les poussées vont être fréquentes et elles vont laisser à chaque fois des séquelles qui vont s'accumuler pour conduire rapidement à une invalidité. Eh bien, cette sclérose en plaques, qui est donc une maladie auto-immune, elle est essentiellement due à l'autodestruction par des anticorps que nous faisons de façon inopportune contre la myéline, qui est cette substance qui entoure les axones de nos nerfs, de nos neurones, cette espèce de gaine isolante. Et il est évident que quand on détruit les isolants, on a des courts-circuits et la machine ne fonctionne pas très bien. Elle est depuis quelques années visible en IRM parce qu'on voit sur l'IRM des flaques dans le cerveau qui correspondent à ces plaques de sclérose que d'habitude on ne voyait qu'au moment de l'autopsie. Et il n'y a pas si longtemps, quand j'étais encore interne, on nous apprenait que la sclérose en plaques était une maladie dont on faisait le diagnostic par élimination. Devant un tableau neurologique, ça n'était pas ceci, ça n'était pas cela, ça n'était pas une troisième maladie. Au bout du compte, on se disait finalement, c'est probablement une sclérose en plaques. Depuis l'avènement de l'IRM, on en fait le diagnostic précoce. Et l'intérêt du diagnostic précoce, c'est qu'on peut essayer de traiter cette maladie. Alors, comment peut-on essayer de la traiter ? Eh bien, en diminuant cette réaction immunitaire inappropriée que nous développons contre nous-mêmes. Et de la même façon qu'on va, par exemple, diminuer la réaction immunitaire d'un malade à qui on a greffé un organe étranger et il va se défendre normalement contre cet organe étranger, on va empêcher le malade qui est porteur de sclérose en plaques de se défendre contre ces éléments et ces éléments du système nerveux. Alors on peut le faire par les mêmes médicaments que ceux qu'on donne à des malades greffés, on peut le faire avec des corticoïdes, on peut le faire avec le bêta-interféron. Je vais prendre un exemple qui est le copolymère 1, qui est un médicament qui vient d'être mise au point et dont tout le monde espère beaucoup. Alors, j'ai représenté ici, de façon très schématique, la séquence d'acides aminés qui constitue ce qu'on appelle la myéline basine protéine, la protéine basique de la myéline, qui est une des protéines principales constituantes de cette myéline. Donc, les protéines sont faites d'une séquence d'acides aminés que j'ai représentée par ces petits carreaux en couleur. Et la question que se sont posées les chercheurs dans ce domaine était très astucieuse. C'était de se dire, si finalement il y a des anticorps qui vont attaquer la myéline et la MBP, la myéline basine protéine, c'est qu'ils ont reconnu une séquence dite immunogène. Si nous arrivons à déterminer quelle est cette séquence immunogène, nous pourrions fabriquer une molécule qui lui ressemble et dont on inondera le malade, ce qui permettra à ces anticorps de venir, en quelque sorte, être leurrés et se fixer sur ces séquences-là et laisser tranquille la myéline. Ils ont donc identifié ceci pour éviter que ces anticorps que j'ai représentés là, qui sont présentés par le complexe majeur d'histocompatibilité, viennent se fixer spécifiquement sur ces éléments et détruire ainsi la myéline. Donc, ayant reconnu ceci, ils l'ont synthétisé artificiellement, ils l'ont branché ces petits éléments entre eux pour faire une espèce de chaîne de nylon qui est un motif répétitif de ces cinq éléments. Et quand on injecte ça au malade, eh bien, ça vient s'interposer entre les anticorps et la myéline. Et puis, si on en donne suffisamment, on peut penser que ça occupera suffisamment les anticorps pour qu'ils laissent la myéline tranquille. C'est effectivement un médicament qui semble être efficace actuellement, qui permet de ralentir l'occurrence des différentes poussées évolutives, qui permet d'en diminuer la violence et qui permet de ce fait d'en diminuer également les conséquences et les séquelles, sans bien évidemment changer le motif primaire. Pourquoi ? Il faudrait comprendre pourquoi subitement on a notre système immunitaire qui dérape et qui se met à s'attaquer aux mauvais adversaires. Un autre exemple d'altération de biologique qui va conduire aux maladies dégénératives, ce sont les altérations de la synthèse des protéines et en particulier les maladies à prions qui vont conduire aux encéphalopathies spongiformes transmissibles, qui ne sont pas toutes bovines, sont un exemple. Alors, je ne vais pas me substituer à Dominique Dormont qui vous a parlé de ça très en détail, simplement pour rappeler que dans toute cette très jolie usine qui est à l'intérieur de nous-mêmes, où nous avons dans notre noyau les éléments de notre génome sous la forme de l'ADN, de l'ARN, des ARN messagers. Ensuite, ils vont être traduits dans l'usine cellulaire et on va tricoter une espèce de chaîne d'acides aminés qui sont nos protéines, et en coupant ces protéines, on va fabriquer des peptides. Donc c'est vrai pour tout, et cette séquence d'acides aminés va déterminer la constitution d'une protéine, et en particulier sa morphologie, et c'est essentiellement grâce à la morphologie que les protéines vont avoir leur fonction, tout à fait comme une clé à sa fonction par rapport à une serrure. Et si on altère cette morphologie, cette séquence, on altère la morphologie, donc on altère la fonction. Quand, par exemple, les proto-oncogènes, qui sont des gènes qui, normalement, fabriquent des protéines qui vont être importantes dans la vie cellulaire, sont altérés, eh bien, leur rôle dans la division cellulaire est perturbé et ça conduit au cancer. Certains enzymes ne vont plus, parce que leur séquence est altérée, effectuer leur fonction métabolique habituelle. Et par exemple, certaines ne vont plus être capables de transformer certains acides aminés. Et si on les donne malencontreusement dans l'alimentation, eh bien, les enfants qui vont manger ça vont avoir l'air idiot. Et c'est ce qu'on appelle l'idiotie phénylcétonurique. Alors que si on fait attention à avoir des régimes appropriés, on guérit cette maladie parce qu'on ne se sert plus de cette enzyme qui ne va pas bien. Les protéines prions, le rôle globalement est inconnu, et il y a la protéine prion, PRP, normalement dans toutes les cellules. Quand, pour une raison ou une autre, la programmation génétique au sens du génome de la construction de ces protéines est altérée, eh bien, dans ce cas particulier, ça aboutit à quelque chose d'assez inhabituel, c'est que la protéine va devenir indestructible. On ne va plus pouvoir la digérer. Quand on mange de la viande, on digère ces protéines, on en transforme en acides aminés. Et les protéines à prion sont extrêmement résistantes, d'où le nom pour cette protéine anormale de protéines prion résistantes, ce qui pose d'ailleurs tous les problèmes de stérilisation, notamment dans le milieu chirurgical, parce qu'on a beau faire cuire tous nos instruments aux températures habituelles, eh bien, il va toujours rester cet agent infectieux. Et du fait de sa non-destructibilité, elle va s'accumuler dans les cellules et finir par être nocive à cause de cette accumulation. Donc voilà un certain nombre d'exemples de mutations d'acides aminés qui vont être possibles. C'est simplement pour dire que cette protéine va changer de forme. Voilà la protéine prion dans son allure normale avec une hélice de type hélice alpha habituelle. Et quand elle va être altérée par ces mutations, elle va aboutir déjà à, non plus à des hélices, mais à ce qu'on appelle des feuillets bêta. Les propriétés normales attendues de cette protéine ne seront plus remplies, mais surtout en plus, elles deviendront extrêmement résistantes et s'accumuleront. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que aux petites altérations près de cette séquence vont correspondre toute une catégorie de maladies pour l'ensemble dégénérative liées à cette altération. Alors par exemple, sans aller dans le détail, si les mutations portent sur la leucine, la valine, etc., on va avoir ce qu'on appelle le syndrome de Gerstmann-Schneider-Schlenker, SGSS, ça a peu d'importance. Si on fait d'autres mutations, on va tomber sur la MCJ, qui est la maladie de Creutzfeldt-Jakob. La maladie de Creutzfeldt-Jakob est bien connue, c'est une démence. C'est une démence mortelle, c'est une démence contre laquelle nous n'avons strictement aucun médicament et aucune thérapeutique. Elle était jusque-là connue de tout le monde, y compris des chirurgiens, mais sans avoir le spectre qu'elle a actuellement depuis l'encéphalopathie spongiforme bovine, parce que son occurrence était rarissime. On avait une à cinq nouvelles maladies de Creutzfeldt-Jakob dans un pays comme la France, avec 50 millions d'habitants, ce qui en soi ne constituait pas quelque chose de très grave. Et la probabilité que ces malades soient opérés et qu'on transfère cette maladie à l'opéré suivant était faible, au point que personne n'a jamais pris les précautions qu'il fallait, alors qu'il était bien connu, en particulier en neurochirurgie, puisque c'est surtout dans le cerveau que ceci se développe, que quand on avait malencontreusement biopsié quelqu'un qui avait une maladie de Creutzfeldt-Jakob et qu'on se servait des mêmes instruments, même stérilisés chez un autre malade avant d'avoir les résultats de la biopsie précédente, on pouvait transférer cette maladie à quelqu'un qui ne l'avait pas et créer comme ceci cette maladie mortelle. Alors, un des exemples, donc maintenant dans les hôpitaux, à la suite de l'augmentation, non pas de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, mais de son équivalent de ce qu'on appelle les nouveaux mutants, notamment à travers le risque de la contamination alimentaire à cause de l'infection bovine, nous avons, dans les hôpitaux, été obligés de mettre en route toute une série de méthodes de stérilisation de matériel extrêmement onéreuses, qui sont a priori théoriquement efficaces. Mais par exemple, on a d'autres moyens, et tout le monde est au courant de cette infection, non pas par la chirurgie, mais thérapeutique, quand on a traité un certain nombre d'enfants avec l'hormone de croissance, hein, HGH, Human Growth Hormone, qui est l'hormone de croissance humaine, qui avait été extraite de cerveau humain. Et il se trouve que dans tout ce pool qui avait été ramassé pour arriver à sortir cette hormone, eh bien, il y en avait un qui avait une maladie de Creutzfeldt-Jakob. Et comme vous le voyez ici, qui ont été traités pendant ces périodes-là, ont tous attrapé, au bout d'un certain nombre d'années, parfois des dizaines d'années, cette maladie, et bien évidemment, en sont morts. Alors, ceci déclenche des vacuoles de spongiose qui donnent le nom de maladie spongiforme. Mais voici, dans la maladie iatrogène, c'est-à-dire celle qui est déclenchée par l'administration malheureuse de cette hormone de croissance, ces plaques amyloïdes qui sont des accumulations de protéines. Ces maladies transmissibles, il y en a beaucoup, c'est la scrapie du mouton, la vachole, le courroux. Il est intéressant de savoir que justement ce principe de ces nouveaux contaminants, qui ne sont pas ni des bactéries ni des virus, a été fait à travers la maladie de courroux, qui était une maladie endémique dans une population, dans une île. Et les gens qui ont découvert ceci l'ont fait en observant que quand quelqu'un mourait pour récupérer son savoir, sa connaissance, etc., il était de coutume de manger son cerveau. Et comme dans ces sociétés qui n'avaient pas établi l'égalité de l'homme et la femme, comme quoi ce n'est pas toujours une bonne chose à essayer d'obtenir, seuls les hommes avaient droit à ce plat honorifique et seuls les hommes attrapaient la maladie que le précédent défunt avait. Alors, toutes les accumulations de protéines anormales ne sont pas transmissibles, heureusement, et la maladie d'Alzheimer est également aussi une maladie due à l'accumulation de ce genre de protéines, même si elle n'est heureusement pas transmissible. Par contre, elle a malheureusement d'autres spécificités, c'est qu'elle est très fréquente. En dessous de 50 ans, comme vous le voyez, sa fréquence est de l'ordre de 0,1%, mais quand on arrive à 85 ans, elle est de l'ordre de 10 à 30% des cas. C'est-à-dire qu'avec nos sociétés occidentales, dirons-nous vieillissantes, où d'autant plus la vieillesse s'accompagne d'une conservation de mieux en mieux de nos facultés intellectuelles, le spectre croissant d'avoir cette maladie qui détruit la mémoire d'abord, puis les fonctions intellectuelles, puis la personnalité, puis la personne, est bien évidemment extrêmement épouvantable et justifie les craintes que nous avons et les efforts qui sont développés, pour le moment sans grand succès, il faut le dire, mais il faut rester optimiste pour traiter cette maladie. Le tableau clinique est fait de ce qu'on appelle les 3A, aphasie, apraxie et agnosie. L'aphasie, c'est la perte du langage. L'agnosie, c'est la perte des connaissances des choses. Et l'apraxie, c'est la perte du savoir-faire. On ne sait plus faire la cuisine, on ne sait plus. Moi, je sais faire que cuire des œufs durs. Et je pense que le jour où j'aurai un Alzheimer, ça sera la première chose que je perdrai dans mes fonctions. Et puis les troubles mnésiques, ces troubles mnésiques qui nous inquiètent tous, parce que tous, tant que nous sommes, nous avons des troubles de la mémoire, que ces troubles de la mémoire, ils augmentent avec l'âge, probablement pas parce qu'on devient des mini-Alzheimer, mais essentiellement parce qu'on cesse d'apprendre. Il n'y a plus personne qui nous oblige à réciter le matin la leçon qu'on n'a pas apprise la veille, et du coup, on va toujours dans la même rue, on rencontre toujours les mêmes gens, on achète toujours le même journal et on y lit toujours les mêmes choses, ce qui fait que finalement, on n'a pas besoin d'avoir la mémoire. Par contre, quand ceci survient plus gravement, eh bien, ça se traduit par une gêne sociale, une gêne familiale qui est assez rapide, d'autant plus qu'on connaît des formes précoces, et même si c'est que 0,1% avant 50 ans, ça fait quand même beaucoup. Ça conduit à la démence, et là aussi c'est l'accumulation d'une protéine également amyloïde, la protéine précurseur de l'amyloïde, la protéine APP, qui va au microscope être visible sous la forme de dépôts comme ceci, qui va jusqu'à conduire à ce que l'on appelle les plaques séniles, qui sont parfois également ce que l'on peut observer au cours de la sénilité normale, je dirais. Et il est certain que l'accumulation finalement de ces protéines, un peu comme dans la maladie des prions, est finalement probablement le mécanisme de base de leur nocivité. C'est en quelque sorte une cellule qui, sans arrêt encombrée de ses propres déchets, qui finit par ne plus pouvoir fonctionner correctement. Alors je vous passe cet élément-là, simplement pour dire que à partir de cette anomalie qui est une mutation probablement génétique qui survient de façon vraisemblablement sporadique, mais parfois dans des familles prédisposées à cela, on va voir, je ne sais pas si on le voit bien, l'accumulation de ces protéines qui va conduire à ces plaques un petit peu partout dans le cerveau, et les neurones vont entrer dans ce qu'on appelle cette dégénérescence neurofibrillaire, avec bien évidemment des éléments d'apoptose. Ça va toucher des surfaces très importantes du cerveau, vous voyez toute la zone frontale qui est une des zones où l'on décide le plus, la zone temporale, et en particulier quand on est à gauche, c'est la parole, et puis quand c'est les deux côtés, c'est la mémoire, et dans cette zone-là où se trouve ce qu'on appelle les fonctions praxiques, c'est-à-dire le savoir-faire. Également, ça entraîne une atrophie de l'hippocampe. Vous voyez, ce sont ces deux petites formations. En temps normal, ça remplit toute la zone qui est prévue pour elle. Et c'est là qu'on se trouve notre mémoire. Pas forcément le réservoir de notre mémoire, mais les canaux d'entrée de notre mémoire. Tout souvenir va d'abord transiter par ces hippocampes. Quand il y en a, on les appelle hippocampes parce qu'ils ont la forme de ce petit animal marin. Et quand on en détruit un, ça va, parce que ça passe de l'autre côté. Quand on détruit les deux, on tombe dans ce qu'on appelle le syndrome de Korsakoff, c'est-à-dire que si vous me donnez mon nom, si vous me donnez votre nom, eh bien, dans cinq minutes, je vous le redemanderai parce que je l'ai oublié, et j'ai même oublié surtout que je vous l'avais déjà demandé. Alors, on voit que cette maladie va se faire de façon progressive. On va voir les zones vertes, c'est les endroits où vraiment la protéine va s'accumuler, où les dégénérescences se font, jusqu'à un certain niveau, c'est-à-dire pratiquement jusque-là, les choses vont être infracliniques, c'est-à-dire qu'on ne va pratiquement pas s'en rendre compte, ni le malade, ni son entourage. Et puis petit à petit, ça va s'étendre, et à ce moment-là, on va s'en rendre compte, et après on dira, mais ça fait déjà quelques années que ça n'allait plus visiblement. Le gène que l'on connaît donc dans pas mal de maladies, notamment dans la protéine prion, mais également dont on commence à trouver les facteurs génétiques dans la protéine APP, c'est bien beau de savoir quel est le gène qui code ou qui code mal pour la protéine, ça ne suffit malheureusement pas. Alors, il ne faut pas désespérer, on sait que nous sommes dans la période du génome, que dans les quelques années qui viennent, nous aurons fini, quand je dis nous, c'est la communauté scientifique, grâce à un effort international énorme, de décoder l'ensemble du génome humain et à travers ça, d'avoir déjà identifié un grand nombre de sites où se trouvent des anomalies responsables d'un grand nombre de maladies. Mais ce n'est pas parce qu'on a identifié une de ces anomalies que l'on va pouvoir autant guérir le malade. Et c'est le cas, par exemple, de la maladie de Huntington. La maladie de Huntington, c'est une maladie héréditaire sur un mode dominant, c'est-à-dire que quand on a un parent qui a la maladie de Huntington, eh bien, un enfant a une chance sur deux de l'avoir. C'est une maladie qui est extrêmement grave, qui se traduit par des mouvements anormaux, des tremblements, et une détérioration intellectuelle rapide qui conduit à une démence et à la mort. Le problème, un des problèmes de cette maladie, indépendamment du fait que nous ne savons pas la guérir ni la traiter, c'est qu'elle devient visible à un moment, chez l'adulte jeune, à un moment où l'adulte a déjà procréé. Autrement dit, où il a déjà éventuellement transmis la tare. Alors on sait maintenant détecter chez un individu qui a des antécédents, dont le père en particulier, ou la mère ont une maladie de Huntington, s'il est porteur du gène. On pourrait se dire, ben, c'est très facile, il n'y a qu'à demander aux gens qui ont ce gène de ne pas faire d'enfant. Et c'est très difficile à demander dans la mesure où, justement, une fois sur deux, c'est tout, on aura le gène. Autrement dit, quand on sait qu'on est d'un parent huntingtonien, on a 50% de l'être, mais 50% de ne pas l'être, et 50% de mener une vie normale. Alors on va dire, ben, il n'y a qu'à le dire aux gens, vous êtes normal, faites des enfants, vous n'êtes pas normal, faites pas d'enfants. Le problème, c'est quand on dit aux gens, vous n'êtes pas normal, le fait de ne plus faire d'enfants devient secondaire, parce que ça veut dire en même temps, vous êtes condamné à mort dans un délai qui est bref. Et ça pose un énorme problème éthique, parce qu'on n'a pas le droit, dans notre société, tout au moins le considère-t-on, et je partage beaucoup cela, de dire à quelqu'un, vous êtes condamné à mort, et je suis désolé de cette bonne nouvelle, mais alors la mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai pas de traitement à vous proposer. Et c'est vraiment un problème d'éthique sociale important sur lequel beaucoup de gens très sérieux se penchent. C'est sûr que si on pouvait faire ça, on pourrait éradiquer la maladie en une génération, puis on n'en parlerait que dans les livres d'histoire. On peut dire aussi, on peut faire ça, on peut rechercher ça sur l'embryon et savoir si cet embryon est atteint et du coup faire un avortement thérapeutique. Le problème, c'est que si on détecte ça chez l'embryon, on dit au père ou à la mère qu'ils ont une maladie de Huntington. Alors, voilà un problème que donc je voulais évoquer avec vous pour cet aspect qui lui est un petit peu particulier. Ce n'est pas parce qu'on connaît le gène et ce n'est pas parce qu'on sait le détecter que pour autant, quand c'est une maladie très grave, les solutions sont simples. Nous avons des modèles animaux, en particulier en utilisant un acide, l'acide 3-nitropropionique. Si vous injectez ça à un singe, il va développer une maladie qui est tout à fait semblable à la maladie de Huntington, et ces modèles animaux sont utilisés pour essayer de trouver des traitements, et il y a des équipes qui travaillent beaucoup là-dessus, et je me permets à cette occasion de dire qu'on peut avoir toutes les opinions qu'on veut à propos de la vivisection, il faut savoir que certaines choses ne peuvent être faites qu'à travers la recherche animale, et en particulier, il n'est pas possible de faire de la recherche sur la chorée de Huntington avec des cultures de cellules. Il faut malheureusement créer des singes qui ont cette maladie pour essayer de guérir les hommes. C'est une atteinte striatale des neurones dans un système qui va nous intéresser maintenant pour la fin de ma conférence, et qui est la maladie de Parkinson. Alors, ça va nous redonner un peu d'espoir, parce que la maladie de Parkinson, elle est fréquente, elle est connue, elle est mal connue d'ailleurs pour beaucoup de gens, je dirais même pour moi jusqu'à ce que je sois amené à m'en occuper plus précisément. Pour moi, un parkinsonien, je crois que pour beaucoup d'entre vous, c'est dans le film de Jacques Tati, ce monsieur qui aide Tati à garer sa voiture américaine et qui a son panier, son pain qu'il est allé acheter, et puis qui va jusqu'au bout de la voiture et lui dit d'avancer, puis ensuite il va jusqu'à l'autre bout, puis lui dit de reculer. Ça prend des heures parce qu'il marche très lentement, il a un petit tremblement, il est penché en avant, et on se dit après tout, mon Dieu, il est retraité, il a tout son temps devant lui, et c'est pas bien grave la maladie de Parkinson. C'est effectivement pas ça qu'on traite, c'est pas ça qui est un problème. La maladie de Parkinson dont on va parler maintenant, c'est celle qui est grave, celle qui évolue vite, celle qui commence parfois jeune. Et nous avons opéré un malade qui avait 38 ans et qui avait cette maladie depuis 18 ans, et ça peut parfois démarrer plus vite. Alors d'habitude, c'est une maladie qu'on voit chez le sujet plus âgé. C'est une maladie liée au vieillissement, mais ce n'est pas une maladie du vieillissement. Et à la quarantaine, maintenant, on voit de plus en plus de gens qui ont cette maladie. Alors, elle a été décrite, pour la petite histoire, en 1817 par M. Parkinson, et il l'avait appelée shaking palsy, c'est-à-dire la paralysie agitante. Et je crois que c'est une très belle démonstration parce qu'effectivement, elle dit à peu près l'essentiel du tableau clinique. Agitante parce que c'est des malades qui ont un tremblement. Alors, parfois, c'est un petit tremblement comme ça, parfois, c'est un très grand tremblement. Et la paralysie, elle tient à quoi? Elle tient au fait que les malades ont une réduction du mouvement, une akinésie, absence, alpha privatif, absence de mouvement, qui n'est pas le très bon terme parce que c'est quand même pas une absence de mouvement. Et le terme anglo-saxon de bradykinésie, brady lentement, est meilleur parce que ce sont des gens dont le mouvement est extrêmement ralenti. L'autre aspect, c'est le troisième élément, c'est la rigidité. Et quand vous allez bouger le coude de ces malades, on a ce qu'on appelle le signe de la roue dentée, que tout le monde peut voir, ça fait clac, 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 clac. Ces trois éléments font que, eh bien, un parkinsonien qui rentre dans cette maladie va voir d'abord se ralentir ses mouvements, l'écriture en particulier, elle va devenir micrographique, et puis au bout de, on ne va pas finir ses mots, ou bien on va faire les choses de plus en plus lentement, et quand on les fait déjà lentement, ça déclenche dans l'entourage familial des réactions, mais enfin, ce n'est pas possible, tu ne pourrais pas aller plus vite. Et puis ensuite, il y a un petit tremblement, et lui, à partir du moment où il y a un tremblement, on se demande si ce n'est pas plus sérieux. Il y a donc une triade, tremblement, rigidité, akinésie, et l'évolution traitée, eh bien, c'est, il y a très joli terme, la lune de miel, ou honeymoon, et moi, je dis que c'est plus qu'une lune de miel, c'est une croisière, mais c'est une croisière de Caribe dans Scylla. Parce que le parkinsonien dont on va faire le diagnostic, on va lui donner un traitement qui est la L-DOPA, qui est un médicament miracle. Et quand on a donné ce médicament, les gens qui sont complètement bloqués, vous leur donnez un quart d'heure après, ils fondent vraiment, enfin leur statut de sel fond, et ils vont prendre des mouvements tout à fait normaux. Ils vont mener une vie normale jusqu'au moment où le médicament ne fera plus effet, on en reprendra un deuxième comprimé, puis c'est tout, puis ça va bien comme ça. Et au fur des années, on va augmenter la quantité de ce médicament, et puis au bout de 5 à 10 ans, vous avez peut-être vu le film L'éveil, parce que c'était une forme, non pas de maladie de Parkinson, mais d'encéphalopathie léthargique, à la suite de l'encéphalopathie léthargique de von Economo, de l'épidémie, ça a donné le syndrome parkinsonien comme ça. Et ces gens qu'on croyait dans le coma endormis, en fait, ils étaient complètement rigides et akinétiques. On leur a donné ce médicament, ils se sont levés, ils ont marché, et puis ensuite, ils se sont agités, et on a arrêté en se disant, il y a des complications. Eh bien, voilà ce qui se passe. Au bout de cette lune de miel, où on était parti de Caribe, qui était la maladie, mais où on naviguait heureusement sur ces eaux, eh bien, on tombe dans Scylla, qui est la maladie iatrogène déclenchée par le médicament. Et au bout de cette évolution, les maladies Parkinson sévères, toutes heureusement n'y vont pas, vont fluctuer entre deux états. Un état qui va être l'état parkinsonien complet, avec d'ailleurs peu de tremblements à ce moment-là, d'abord parce qu'on ne tremble plus quand on est complètement rigide, mais parce que souvent les maladies tremblantes sont à l'évolution moins méchante que les formes akinétiques et rigides. Donc les malades dans cet état sont bloqués, mais bloqués au point de ne pas pouvoir se tourner dans leur lit, de ne pas pouvoir se lever, de ne pas pouvoir manger, d'être de vrais statuts de sel, il va falloir les nurser, au milieu de la nuit, les tourner, sinon ils vont faire des escarres, et c'est très douloureux en plus pour eux quand on ne bouge pas. Ils prennent leurs médicaments pendant une période relativement variable, ils vont être très bien, ils vont passer de ce moment où ils sont complètement bloqués à un moment où ils fondent, ils se détendent, ils marchent et tout, et à ce moment-là, on va voir apparaître des mouvements qui ne sont pas la danse de Saint-Guy. La danse de Saint-Guy, c'est la Corée de Sinanam, c'est autre chose, mais qui peuvent être décrits comme la danse de Saint-Guy. C'est une agitation je dirais désordonné, mais quand même coordonné, parce que les gens peuvent quand même marcher. Ils vont marcher simplement en se faisant des tas de contorsions avec les bras qui passent derrière. Il y a également des mouvements de la tête, du cou, de la bouche, de la face. Et en fait, de façon très paradoxale, ces malades préfèrent ça à l'état précédent. L'état précédent, ils disent « je suis enterré vivant ». Celui-ci, au moins, peuvent bouger. Alors, quand ils se servent, par exemple, d'un ordinateur, au moment où la main passe sur la lettre, clac, on l'appuie, et puis ça prend un peu plus de temps, mais on peut faire des choses. Ce n'est quand même pas la gloire. Et à partir de ce moment-là, on se trouve chez des malades qui sont vraiment dans une situation extrêmement gravissime. Voilà la maladie de Parkinson sévère dont on va parler. Alors, voici un malade dans l'attitude classique décrite par M. Richet. Puis ça, c'est une statue qui a été faite par un sculpteur qui s'appelle Richet aussi, ils n'ont rien à voir, et qui démontre très bien cette position classique du parkinsonien, qui en plus va avoir un petit tremblement des doigts, une situation penchée, qui va marcher à petits pas, va décomposer son demi-tour alors que vous tournez sur vos talons, qui vont avoir perdu le faciès et tout ce qui fait l'émotivité et la communication. C'est pour ça qu'on va croire qu'ils sont un petit peu, déjà un petit peu gâteux, alors qu'ils ne le sont pas et qu'ils sont parfaitement conservés sur le plan intellectuel, ce qui rend pour eux cette vie encore plus douloureuse. Et également, ils vont perdre tout ce qui font, ce qui constitue la motricité automatique. Par exemple, le fait de se frotter le nez, de se gratter comme ça, sont des éléments qu'on fait parce qu'on en a besoin, que ça vous chatouille quelque part. Un parkinsonien va être incapable de tous ces mouvements. Alors, le tremblement, voilà par exemple un malade, vous voyez qu'il n'est pas vieux, hein, ce malade, eh ben, voilà, ça c'est un Parkinson unilatéral, malheureusement de la main droite, et quand on veut faire quelque chose, c'est encore pire, ça augmente, vous voyez qu'il est en train d'essayer d'écrire, et alors j'arrête là parce que je vous montrerai la suite plus tard. Également, je voudrais vous montrer ce qui se passe quand les malades en sont au stade de fluctuation, voilà, ce malade a pris des médicaments. Ce que vous voyez, ce ne sont pas des signes de la maladie de Parkinson, ce sont les mouvements anormaux, j'arrête aussi parce que vous verrez la suite après, qui sont dus au traitement médical et qui sont parfois beaucoup plus amples que ça. Alors, les causes de cette maladie, c'est la dégénérescence des neurones qui nigros striés, c'est-à-dire des neurones qui sont en substance noire et qui vont se projeter dans le striatum. Je vous passe ce schéma pour dire que la substance noire compacta qui fabrique la dopamine ne le projette plus ici. Et tout ce circuit, qui va être le circuit qu'on va utiliser chirurgicalement, va aboutir à un blocage d'un noyau qu'on appelle le thalamus, et donc d'un blocage du cortex, d'où l'absence de mouvement. Si je coupe un tronc cérébral normal, voilà ce que je vais voir, c'est-à-dire substance noire et qui s'appelle comme ça parce qu'elle est noire. Et quand vous coupez le tronc cérébral d'un malade parkinsonien, vous voyez qu'on a perdu cette coloration noire parce que ces cellules-là ont dégénéré et sont mortes. Elles sont mortes d'une dégénérescence neurofibrillaire avec des corps que l'on appelle les corps de Lévy, qu'on trouve dans les cellules et qui est dû à l'accumulation de ces produits. Alors, ici, on a un schéma qui montre la fin d'un neurone dopaminergique qui va sécréter de la dopamine, qui va venir sur le récepteur à la dopamine dans les cellules du striatum, du noyau codé, du putamen. Et c'est cette transmission-là qui va être interrompue du fait qu'on n'a plus de dopamine. Une partie de la dopamine est reprise par d'autres récepteurs qui va venir réguler la libération de cette dopamine. Donc il y a ici un système assez complexe qui est responsable de l'élaboration de nos mouvements. Comment ces cellules dégénèrent-elles? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas, sauf qu'on a une hypothèse qui est l'hypothèse toxique. À la suite de l'observation en Californie d'un certain nombre de gens qui avaient consommer de l'héroïne de mauvaise qualité dans laquelle se trouvait un produit qui habituellement ne se trouve pas quand elle est bien préparée et qui est le méthylphényl tétrahydropyridine, MPTP. Et ce produit, il se trouve qu'il est également, à travers un de ses métabolites, recapté, c'est pour ça que je vous montrais les sites qui recaptent la dopamine, recapté par les neurones dopaminergiques, et il va interférer avec la mélanine qui rend ces cellules noires et tuer ces cellules. Et on a découvert comme ça qu'une série de jeunes qui avaient pris ça sont devenus parkinsoniens à l'âge de 18 ans, tout un groupe dans le même quartier de San Francisco. Ça a permis, malheureusement, à travers cet épisode, de mettre en évidence cela. Or, il se trouve que ce MPTP, on retrouve des équivalents dans certaines cuisines, dans certaines sauces, en particulier de cuisine japonaise. Et il y a une île, l'île de Guam, où il y a un syndrome particulier qui semble être lié à la nourriture. On trouve ça également dans certains fruits, en particulier des fruits exotiques de la Guadeloupe. Et il n'est pas prouvé pour le moment, vous pouvez en manger quand même, mais il n'est pas prouvé que ça soit. L'hypothèse donc que nous ayons dans notre environnement un toxique qui soit capable de faire dégénérer nos neurones n'est pas nulle. On peut maintenant imager ceci. Voilà le striatum, c'est-à-dire l'endroit où vient se déverser la dopamine. Et si on donne de la dopamine radioactive, en gros, voilà ce qu'on va voir sur cette image en PET scan, en tomographie d'émission de positons. Voici ce qui se passe chez un malade qui est parkinsonien asymétrique, où quand on lui donne un médicament comme le MPTP, de la fluorodopa, eh bien, ça va être pris du côté qui est en bonne forme, et vous voyez que du côté où la maladie est en train de progresser, ça n'est pas pris. Et on peut également faire l'imagerie de ce qui se passe derrière là où arrive la dopamine, et voir également chez ce malade, qui est le même d'ailleurs, qui a une asymétrie des récepteurs postsynaptiques. Quels sont les traitements ? Bien les traitements, les greffes, je n'en parlerai pas. Les greffes, on en parlera dans les discussions, c'est encore un sujet expérimental, ça n'est pas un traitement disponible, c'est l'espoir de tout le monde, j'espère que ça marchera, parce que j'espère qu'il y a des tas de choses qu'on pourra me greffer le jour où ça me manquera, pas que les cellules dopaminergiques, c'est donc un projet à très long terme et à très large spectre, mais pour le moment, on ne peut pas dire que ce soit disponible pour les malades. La substitution pharmacologique, c'est le traitement médical. La levodopa, d'une part, qui est le médicament qui va fabriquer la dopamine qui nous manque, et les agonistes, qui sont des médicaments qui font semblant, mais qui ne sont pas, bien évidemment, de la dopa. La chirurgie, et je dis un mot du concept de futilité. C'est très étonnant de s'apercevoir que des structures que nous avons dans le cerveau, on va pouvoir les détruire ou les inhiber, et paradoxalement, ça va mieux après. Alors, on se demande à quoi ça servait. Si c'était là, c'est vraisemblablement que ça servait à quelque chose, donc c'était utile. Mais si on peut s'en passer, c'est peut-être que ce n'est pas totalement utile, donc c'est peut-être un peu futile, mais je ne suis pas toujours très suivi dans ce concept, on pourra en discuter. Et je vous montrerai que maintenant, la chirurgie s'oriente non plus vers la destruction, mais vers l'inhibition par la stimulation. Alors, voilà le traitement par la dopamine. La L-DOPA, ça va venir remplacer ce qui manque, alors que les traitements agonistes, comme le Parlodel, sont des médicaments qui vont venir faire le même effet que la DOPA, mais vous voyez, au niveau périphérique, c'est-à-dire on va directement aller vers la serrure, alors qu'ici, on va refabriquer la clé. Quant à la chirurgie, eh bien, c'est une chirurgie stéréotaxique. Voici comment ça se fait chez nous. Le malade est là, il a la tête dans un cadre. Nous utilisons un robot, mais d'autres systèmes sont utilisés. Ceci va nous permettre de positionner avec une très grande précision nos instruments à l'intérieur du cerveau pour soit y faire des destructions, soit y faire des implantations d'électrodes. Alors voilà, je ne sais pas si on voit bien, les électrodes qu'on peut implanter dans le cerveau. Vous voyez qu'on les implante des deux côtés. Ici, on en a mis une. De ce côté, on en a mis deux parce qu'il y avait deux endroits, 2 mm l'un de l'autre, qui semblaient répondre. Et on les a connectés à des stimulateurs qui ressemblent beaucoup aux stimulateurs cardiaques, mais le cœur, il bat à 1 par seconde, 1 Hz. Et ces stimulateurs fonctionnent à 130 Hz. Et ici, vous avez un système double qui est connecté aux deux électrodes. Avant, qu'est-ce qu'on faisait ? Eh bien, on faisait des destructions, c'est-à-dire au même endroit, on faisait un trou. Alors, quand le trou était bien placé, c'était bien. Quand il était un tout petit peu à côté, là, vous voyez, dans cette lame blanche, et bien dans cette lame blanche, c'est là que passent les fibres qui font que je bouge les bras et les jambes. Et donc, si on faisait cette lésion un tout petit peu en dehors, eh bien, ça se traduisait par une paralysie. Alors, c'est vrai que ça supprime le tremblement, mais enfin, c'est en général pas ce qui est choisi. Par contre, malheureusement, ce n'est pas toujours au choix. Alors, par contre, la stimulation telle qu'elle est utilisée, habituellement, on dit que la stimulation est excitatrice. C'est vrai, quand vous mettez les doigts dans le courant, ça vous donne une décharge, ça vous entraîne des contractions. Si vous faites ça sur une patte de grenouille, ou comme vous voyez, Aldini, déjà en 1804, mettait cette pile de Volta et il déclenchait des secousses. Et il avait écrit avec énormément de prévision, d'ailleurs, il est probable qu'un jour, ceci aura un intérêt médical. Alors, ça a été utilisé en stimulant à basse fréquence le thalamus ou la moelle, essentiellement pour traiter des douleurs. Mais maintenant, on utilise stimulation à haute fréquence des ganglions de la base, c'est-à-dire divers cibles, pour les inhiber. Alors, par exemple, le thalamus, qui est cette zone verte ici, sur cet atlas stéréotaxique. Quand on le stimule, vous voyez une main qui tremble. Quand on le stimule pendant l'intervention, ce que vous voyez ici, le tremblement est enregistré par un accéléromètre. On va stimuler, on bloque le tremblement, ce qu'on voit sous la forme de cette photo. Et quand ça redémarre, quand on arrête la stimulation, ça redémarre pratiquement tout de suite. Vous retrouvez notre malade de tout à l'heure, qui tremble donc, qui n'est pas stimulé. Là, il a été opéré, on lui a mis un stimulateur. Et il va... voilà mon collègue professeur Pierre Polak qui lui donne un aimant. Il va mettre en marche son stimulateur. Vous voyez, 1, 2, 3, et ça s'arrête. Le malade ne tremble plus et il va pouvoir faire... D'abord, il ne tremble plus au repos. Il va tendre les bras et il n'y a plus de tremblement. Et on va le voir également écrire. Vous vous souvenez que tout à l'heure, il n'y arrivait pas. Pour ce qui est des dyskinésies dont je vous parlais, c'est cette cible-là qu'on va installer. Vous voyez le malade que vous avez vu tout à l'heure, qui a donc ces dyskinésies, ces mouvements anormaux dus au traitement médical. Et encore une fois, M. Polak va mettre en marche le stimulateur qui est implanté du côté opposé. Et le malade va nous montrer, clac, que c'est fini. Il le sent lui-même, voilà, c'est fini. Sauf que ça marche d'un côté, mais vous voyez que du côté gauche, vu qu'on a stimulé qu'un côté, l'effet n'est que transitoirement bilatéral et donc il faut opérer les malades des deux côtés. Alors, on a une troisième cible, qui est la nouvelle cible dite sous-thalamique, qui est en dessous du thalamus, la cible rouge ici. Et alors elle, c'est une cible merveilleuse. La voilà en IRM sur une coupe horizontale. On peut également la voir. C'est ce petit paquet-là. Ce n'est pas celui-ci. C'est ce petit paquet-là qui fait à peu près 6 mm de diamètre, dans lequel il va falloir aller mettre une électrode qui, une fois qu'elle est stimulée, vous allez le voir chez ces deux malades. Voilà deux malades en temps préopératoire. Vous voyez que notre collègue, Mme Patricia Limousin, l'a aidé à se lever. Il marche sur la pointe des pieds parce qu'il ne peut pas poser le talon. Ce malade-là, il ne bouge pas. Puis le voilà trois mois après, opéré sans traitement médical, simplement stimulé avec une marche tout à fait normale. Ce malade, trois mois après opéré, vous voyez qu'il reprend ces mouvements-là. Et vous allez le voir marcher alors qu'on n'arrivait pas à peine à le lever de sa chaise. Le voici marcher. Il est stimulé bilatéralement, il n'a pas de traitement médical. Et comme c'était juste avant un congrès à Vienne, il nous avait fait un petit cadeau que voici, il était capable de valser. Alors cette cible, quand on la stimule, quand on l'inhibe, elle réduit tous les symptômes. Vous voyez la rigidité avant et après, la kinésie, le tremblement, tous ces éléments sont... voilà également certaines formes de dystonie. Je ne parlerai pas des dystonies, mais il y a certaines dystonies du Parkinson que vous voyez ici chez ce malade, qui est le malade en bas qu'on voyait tout à l'heure. On l'a stimulé, il reprend les mouvements normaux, il se gratte le nez, il s'est installé sur sa chaise. On va arrêter à nouveau le stimulateur pour vous montrer à quel point c'est immédiat. Et le voilà revenir, non pas en faisant semblant, mais il ne peut pas faire autrement que de se remettre dans cette situation une fois qu'on a arrêté de stimuler. Alors, les hypothèses sur le mode d'action, c'est essentiellement dû à la haute fréquence. Ce n'est pas la peine que j'insiste beaucoup là-dessus. La stimulation arrête le fonctionnement des neurones qui, à leur tour, vont arrêter le fonctionnement des neurones sur lesquels ils se projettent, ce qui va libérer les neurones du thalamus et permettre donc le mouvement. Est-ce qu'on peut espérer une neuroprotection? Autrement dit, est-ce que non seulement on peut bloquer les symptômes, mais est-ce qu'on peut guérir la maladie? Ça n'est pas impossible. Chez le rat où on injecte un toxique qui va lui détruire en partie sa substance noire, on inhibe le noyau sous-thalamique avant de le faire, eh bien vous voyez qu'en réinjectant de ce toxique, on n'obtient plus cette dégénérescence. Donc il y a des possibilités d'espérer qu'on puisse, comme ceci, ralentir l'évolution de la maladie. Voici pour conclure un malade qui a été opéré il y a 6 ans, qui n'est plus traité médicalement, mais qui est stimulé bilatéralement. Et vous voyez que 6 ans après, il y a une parfaite stabilité de l'efficacité. C'est également réversible, comme on l'a vu. La méthode permet de l'adapter, c'est-à-dire que quand les symptômes augmentent, il suffit d'augmenter le voltage de ces stimulateurs. On peut les opérer bilatéralement sans avoir les importantes complications que nous avions avant. Et on peut diminuer le traitement médical, ce qui fait disparaître les dyskinésies et qui permet d'espérer une neuroprotection. Alors, je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai dépassé de 2-3 minutes. Et je vous remercie de votre attention.
Nous allons passer tout de suite aux questions. Je ne sais pas où sont les micros. Il y a un micro là-bas, donc une question là. Une question là, déjà. Voilà. Allez-y, madame, oui. Là-bas, sur le côté.
Non, de l'autre côté, monsieur. Là-bas. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir à partir de quel moment, enfin sur quels critères, vous décidez que l'efficacité des médicaments n'a plus d'efficacité pour pouvoir être un cas opérable, comme vous avez cité un cas extrême, surtout sur un sujet jeune, puisqu'en fait c'est une personne qui a 42 ans et qui est au stade de 10 ans de médicaments et qui a les symptômes que vous avez évoqués. Donc, sur quels critères vous pouvez décider que les médicaments ne font plus effet ?
Alors, les médicaments dans la maladie de Parkinson font toujours effet. C'est-à-dire que les malades tels que je les ai décrits, quand ils passent de l'état grabataire à l'état de danseuse balinaise, ils traversent cet espace en étant à un certain moment bien. Ce qu'on appelle le best on, le meilleur moment sous traitement. Et ce traitement, ce moment est toujours bon. Si on n'a plus cette amélioration sous DOPA, même pendant très peu de temps, on peut se poser la question de savoir si c'est vraiment une maladie de Parkinson et pas une maladie dite multisystématisée qui est une autre forme. Autrement dit, ça n'est pas vraiment une disparition de l'effet du traitement, c'est une disparition du contrôle satisfaisant du malade par le traitement médical. Alors, il est certain que le médicament qui est efficace parfaitement pendant 2 secondes, ça ne sert à rien pendant la journée. Ce qui est important, c'est que ça marche longtemps et c'est justement ça qui disparaît. Alors, on va rentrer peut-être, il y aura peut-être des questions sur le coût de ces méthodes-là, mais sans parler du coût de ces méthodes-là, il y a quand même un risque, c'est de la chirurgie. À partir du moment où on regarde un chirurgien dans les yeux, on court des risques, donc il vaut mieux éviter de s'en approcher trop près. Et il faut quand même donc réserver, il faut que le jeu envahisse la chandelle. Autrement dit, il faut que les malades aient cessé d'être confortables. Alors, tous ceux qu'on opère maintenant, il y a longtemps qu'ils ont cessé d'être confortables, c'est certain. Les indications telles qu'on les discute de nos jours, dans nos milieux, si j'ose dire, l'idéal, ça serait qu'on opère les gens au moment où on sait qu'ils vont perdre leur autonomie. Tant qu'ils sont dans cette lune de miel, il ne faut pas les en priver parce que c'est sans risque. Mais à partir du moment où le malade va commencer à être de façon non satisfaisante traité par ses médicaments et va par exemple être obligé d'arrêter son métier, de ne plus conduire, eh bien c'est à ce moment-là qu'il faudra les opérer parce que ce n'est pas la peine de les laisser aller jusqu'au fin fond de la déchéance pour les ramener à des états qui sont quasi normaux. Autant les laisser dans cet état-là. Alors, pour le moment, on n'en est pas là au sens où il y a un tel nombre de malades qui sont dans ces états extrêmement avancés qu'il faut essayer de les traiter en premier lieu. Mais dans la perspective qui doit être proche, il faut justement proposer ce traitement au moment où le traitement médical a cessé d'être satisfaisant.
Une question là-haut.
Bonsoir, monsieur. Ici. Là-haut. Ici. Bonsoir, monsieur.
Bonjour, madame.
Alors, bien sûr, vous opérez à Grenoble. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. pour des critères que, dont vous avez déjà parlé, mais aussi, par exemple, à partir d'un certain âge ou des choses comme ça. Donc, d'autres personnes ont besoin de traitement encore actuellement. Et je voudrais connaître votre impression sur le devenir de quelque chose qui a été accepté par la Commission européenne, qui est donc le complémentaire de la levodopa, qui serait commercialisé sous le nom de Contest, si je ne me trompe pas, qui serait fabriqué par un laboratoire finlandais Orion, et que l'on ne trouve pas encore prescrit dans les cabinets. Pouvez-vous me dire quelque chose à ce sujet-là?
Je vais vous dire d'abord que j'opère à Grenoble, mais il y a de nombreux centres qui sont en train d'utiliser cette méthode. En France, il y a 4 centres principalement qui le font à un haut niveau, à un haut débit, je dirais, d'autres qui sont en train de monter en puissance. Et puis dans le monde entier, au dernier recensement, il y avait 650 centres et je crois que 3500 malades ont été opérés l'année dernière. C'est rien par rapport à tout ce qu'il faut faire, mais c'est en train de se mettre en place. Alors, en ce qui concerne les traitements, je pense que vous faites allusion à ce qu'on appelle les inhibiteurs de la COMT, qui sont les inhibiteurs de la catéchol-O-méthyltransférase, qui est un enzyme qui détruit la DOPA. Tous les neurotransmetteurs ont derrière eux un enzyme qui vient les défaire pour qu'ensuite le système soit prêt à recommencer. Alors une des astuces, c'est de se dire, ben, déjà qu'on en produit peu chez le parkinsonien, on va bloquer cette enzyme qui détruit le peu de DOPA qui a été fait, comme ça, ça restera plus longtemps, ça marchera mieux. Alors ces inhibiteurs de la COMT, effectivement, ont été mis sur le marché, y compris en France. Le problème est que l'un d'entre eux, qui était le plus efficace, a été responsable d'hépatites fulminantes qui ont entraîné un décès chez un petit nombre de malades par rapport au nombre de gens qui avaient essayé ce traitement. Je crois que c'est 6 sur 300 000 ou quelque chose comme ça, mais c'est quand même 6. Alors la commission, c'est en France en particulier, et je crois qu'ils ont eu raison, ont interdit ce médicament, ça n'est pas définitif. Le problème est, par exemple, que ces malades n'avaient pas été correctement suivis. Quand on a une altération hépatique, il y a des tas de médicaments qui vous donnent une altération hépatique, on peut vérifier ça, suivre ça, en faisant des dosages sanguins, des transaminases, par exemple, et de voir quelque chose qui se prépare, et à ce moment-là, arrêter le traitement. Ces malades n'ont pas été suivis. La preuve n'est pas faite qu'il suffirait de suivre pour qu'eux. Donc il y a effectivement un moratoire, ce médicament est interdit, tant que des essais qui sont en cours n'auront pas prouvé que si on suit bien les malades sur le plan hépatique, ça suffira. Alors il y a d'autres médicaments qui dérivent du même principe, mais qui ne sont pas aussi efficaces que celui qui a été interdit, qui sont encore disponibles. Ils apportent ce qu'ils peuvent apporter, mais ce n'est pas aussi bien que le précédent.
Une question sur le côté là-bas, madame.
Monsieur le professeur, les myopathies...
Parlez dans le micro.
Les myopathies subliminales atrophiantes font-elles partie des maladies de Parkinson et quels sont les traitements, s'il vous plaît?
Alors, ça ne fait pas partie de la maladie de Parkinson. Ça fait partie des myopathies qui, pour l'ensemble, sont des maladies génétiques, dégénératives, souvent d'ailleurs au niveau périphérique. Dans l'ensemble, elles n'ont pas de traitement actuellement. Elles vont être de plus en plus connues à travers le décodage génétique. Pour certaines d'entre elles, il y a des solutions thérapeutiques qui sont envisagées, mais malheureusement, pour le moment, l'ensemble des myopathies, qui va sûrement bénéficier dans les années qui viennent de tout le travail en biologie moléculaire, ne reste accessible qu'à des traitements symptomatiques, c'est-à-dire qui compensent les effets et qui n'empêchent pas l'évolution de la maladie.
Une question là.
Dans la maladie d'Alzheimer, est-ce que ce sont les cellules sécrétant l'acétylcholine qui sont touchées?
Alors, c'est une très bonne question. C'est effectivement les cellules qui sont responsables de la sécrétion d'acétylcholine. C'est le système cholinergique qui est plus touché. À la différence de la maladie de Parkinson où c'est le système dopaminergique, mais le système cholinergique est également atteint dans l'évolution de la maladie de Parkinson. Il semble que dans les formes évoluées, tous les autres systèmes soient atteints, mais dans la maladie d'Alzheimer, c'est principalement le système cholinergique. Le problème est que c'est une atteinte diffuse et que, en plus, l'acétylcholine est un neurotransmetteur très ubiquitaire, très passe-partout, et, alors que la dopamine est un neurotransmetteur qui n'agit pratiquement que dans le système où il a dégénéré. Et ce qui fait qu'on ne peut pas donner de l'acétylcholine comme traitement substitutif. Alors, il y a des médicaments qui interfèrent avec le système cholinergique, qui sont à l'essai dans la maladie d'Alzheimer. Il y a des espoirs de greffe également. Le problème, c'est après, en ce qui concerne les greffes et la maladie d'Alzheimer, comme je vous ai dit que c'était une maladie assez diffuse, c'est de se dire où est-ce qu'on va greffer, quand on sait déjà que les greffes dans la maladie de Parkinson, où il y a un petit endroit qu'il faut greffer, qu'il faut parfois 8 à 10 fœtus pour avoir les prélèvements nécessaires pour un côté, quand on utilise les greffes fœtales, c'est encore difficilement envisageable.
Une question là ?
Oui, bonsoir. On avait vu avec M. Rock que les drogues, en particulier la cocaïne, les amphétamines, jouaient sur le système dopaminergique en le stimulant. Est-ce que les médicaments impliqués dans le traitement des maladies que nous avons vues aboutissent aussi à la même chose, aux mêmes effets psychiques ?
Merci. Oui, les médicaments qu'on donne contre certaines psychoses, ce qu'on appelle neuroleptiques, sont des médicaments qui vont interférer avec le système dopaminergique. De la même façon, des excès du système dopaminergique vont être responsables de comportements qui sont des comportements de type psychiatrique. Alors, par exemple, quand on donne du Parlodel, qui est donc un agoniste dopaminergique, c'est-à-dire qu'il agit comme la dopa, mais ce n'est pas la dopa, on n'a en général pas d'évolution vers les mouvements anormaux, mais par contre, on a l'autre revers de la médaille, qui sont les troubles de la série dite psychiatrique. Alors ça ne va pas très loin, ça ne rend pas les gens fous, mais ça leur donne des hallucinations, ce qui est quand même gênant, même s'ils les critiquent, mais des hallucinations où ils ont toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là, donc on se retourne, puis il n'y a personne. Ils voient passer des choses. Parfois, ça va un peu plus loin et ils perdent éventuellement un peu le sens critique. Ou bien, ça crée des aspects, des états hypomaniaques ou maniaques, c'est-à-dire des états d'excitation, qui sont des éléments limitants de ce traitement. Alors, ça n'atteint pas... D'ailleurs, quand on prend de la cocaïne, enfin, je ne sais pas, je n'en ai jamais pris, mais d'après ce qu'on nous dit, les effets immédiats sont des effets excitants, sans tout de suite entraîner des débordements excessifs. Là, pour les médicaments dopaminergiques, c'est la même chose. D'ailleurs, les malades, quand ils sont opérés, comme vous l'avez vu, on a souvent beaucoup de mal à leur faire arrêter la prise de médicaments alors qu'ils n'en ont pas besoin. Parce que, d'abord, parce qu'ils en ont pris pendant 15 ans, il y a une espèce d'insécurité. Ils se disent, si je n'en prends pas, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, il leur faut du temps pour s'habituer. Mais aussi parce que, quand ils n'en prennent pas, ils perdent un des avantages de le prendre. C'est que quand vous prenez de la dopa, ça vous donne un plus, un psychotonique. Ça vous dope un peu, hein, comme certains prennent de la cocaïne. Donc, le fait de ne plus le prendre, ça entraîne un petit peu des tendances un peu dépressives.
Deux toutes dernières questions, une là-haut d'abord et une après là.
Certains malades atteints de maladies dégénératives et qui sont tout à fait apraxiques font subitement des accès de violence épouvantables. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire ?
Je pense que ça n'est vrai que dans certaines de ces maladies neurodégénératives à des stades relativement avancés. Le plus classique, c'est dans la maladie d'Alzheimer. Dans les autres, exceptionnellement, on a ce genre de comportement. Mais dans la maladie d'Alzheimer, au stade avancé de la dégénérescence et de l'évolution démentielle, on voit ça. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, les gens ont un comportement qu'ils ne contrôlent plus parce que les structures de notre cerveau qui nous amènent à contrôler les comportements ne fonctionne plus. Un des éléments moins violents, c'est qu'ils vont avoir envie de manger, ils vont manger, en étant totalement ce qu'on appelle les désinhibitions. Ils vont faire absolument ce qu'ils avaient envie de faire, parce que nous, il y a des tas de choses qu'on a toujours envie de faire et qu'on ne fait pas, parce que ça ne se fait pas, ou parce que j'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Donc là, les comportements violents sont souvent des comportements réactionnels non contrôlés vis-à-vis des situations dans lesquelles ils se trouvent. Et en particulier, ce qui est très gênant pour les Alzheimer à un certain moment, c'est qu'on les met d'une manière ou d'une autre, volontairement ou pas, en face de leurs échecs. Au début, on leur dit « mais enfin, tu sais très bien, tu l'as déjà fait ». Alors, on dit « mais non, je ne l'ai pas fait ». Mais si tu l'as fait, au bout d'un moment, on se met en colère. Alors, quand on sait que de toute façon, ils ne se souviennent pas qu'on l'a fait, ce n'est pas la peine d'essayer de les en convaincre et il vaut mieux adopter une attitude plus au fil de l'eau. Et ça fait partie un peu de la prise en charge de ces malades. C'est vrai qu'ils ont parfois des comportements, je dirais, enfantins. C'est une régression des stades enfantins primaires qui sont caractérisés notamment par la perte du contrôle.
Une toute dernière question très rapide.
Je voudrais vous poser une question. Est-ce que toutes les contractures musculaires involontaires sont assimilables à une maladie de style Parkinson ?
Non. Non, il y a énormément de pathologies du tonus. Dans toute la pathologie des mouvements anormaux, on a des contractions musculaires. Et ces contractions musculaires involontaires, en particulier dans la dystonie, dans toutes les dystonies, sont dues à une absence de contrôle des mécanismes de la contraction musculaire, mais ne font pas partie de la maladie de Parkinson.
C'est même pas précurseur.
Non plus.
Professeur Benabid, je vous remercie.
Merci.